l'écriture n'est pas enseignée à l'école, parce qu'il y a très peu d'écoles, et que la plupart des écoles sont en fait des annexes, des centres intellectuels, l'évêché, la cathédrale, le chapitre de la cathédrale, le palais, ou quelques élèves, hein, les fameuses écoles de palais de Charlemagne, installées à côté des centres politiques dans lesquels on forme les employés dont on aura besoin pour ces centres politiques. La grande réforme scolaire de Charlemagne consiste simplement qu'à se procurer l'esprit de l'élémentaire dans le pouvoir qui se développe alors. Alors, pour en venir à mon art calligraphique français, il faut arriver à cette rupture qui se produit entre le XIVe et le XVe siècle, et qui est un moment tout à fait décisif. Parce que ce savoir écrire, qui servait uniquement à diffuser en nombre très limité des livres, et souvenez-vous que copier un livre au Moyen Âge, on est toujours court, parce qu'on est court en écriture si cher. Cela peut prendre deux mois et demi de travail à un copiste, calculer le prix. Les livres sont excessivement chers, et un livre, jusqu'à l'arrivée de l'imprimerie, est un objet qui ne peut pas circuler en dehors des milieux les plus aisés. Mais ce qui se produit à partir du XVe siècle, et en particulier à l'Italie, donc autour de la Méditerranée, mais très fortement en Italie, c'est tout à coup une diffusion hors des lieux où elle était jusque-là confisquée. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que les parties de la population qui vont immédiatement trouver un intérêt pour l'écriture, ce ne sont pas du tout des intellectuels, ce ne sont pas du tout des gens qui veulent envoyer leurs enfants dans les écoles ni faire des études à leurs enfants, ce sont tout simplement des marchands. Ce sont des marchands parce qu'à partir du XIIIe siècle déjà, vous savez que se développe en Europe un commerce international et que ce commerce international ne peut pas vivre sans écrire. La grande invention du commerce international qui se produit quelque part vers le XIVe siècle, c'est l'invention du chèque, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque la lettre de change. Au lieu de faire circuler de l'or, vous savez combien à cette époque-là il devait être très dangereux de faire circuler de l'or pour effectuer un paiement avec une personne avec qui on commerce et qui se situe à des mois de navigation de l'endroit où l'on se trouve, la lettre de change a valeur de l'argent qu'il représente. La culture des marchands va inventer une autre écriture, une écriture tout à fait nouvelle dont on n'avait pas l'idée, et qui va progressivement s'imposer non seulement aux grandes compagnies marchandes, Venise, Florence, Prato, ou dans le nord de l'Europe, les compagnies marchandes de la zone hanséatique, mais à tous les marchands petits. Car ce qui est peut-être le plus extraordinaire, c'est que ce souci d'écrire, on commence à le trouver au XVe siècle en Italie, dans les plus petits pays, qui tiennent leur compte, et font écrire, alors que les boutiquiers sont encore parfaitement à leur travail, se débrouillent pour trouver quelqu'un qui vienne à leur place écrire régulièrement chaque mois. Un collègue de l'université de Rome, qui est maintenant à l'école normale supérieure de Pise, en Italie, qui s'appelle Armando Petrucci, qui est un des grands paléographes spécialistes de ces questions en Italie, a montré que dans des milieux extrêmement populaires, en particulier, il a travaillé sur des archives qu'il a trouvées du XVe siècle, à Rome, à Trastevere, petit village à l'époque. Il a retrouvé, datant de la fin du XVe siècle, les archives d'une charcutière. Eh bien, cette dame charcutière tenait ses comptes. Et cette dame charcutière, non seulement tenait ses comptes, mais écrivait sur son livre de comptes tout ce qui arrivait dans la journée d'importance. Elle était un alphabète. Elle cherchait en permanence autour d'elle des gens qui savaient écrire. Et on se rend compte que de mois en mois, le scripteur change. Non, au gré des gens qui passent, au gré des voisins qui arrivent ou qui repassent, il y a toujours, dans l'Italie du XVe siècle, quelqu'un sachant écrire, qui peut écrire pour tous ceux qui en ont besoin. Et cette écriture est une écriture très extraordinaire, parce qu'elle comporte de la rythmique. Imaginez bien que les grandes chancelleries des grands royaumes européens continueront à travailler avec des bouliers. En Europe, on n'appelle pas ça des bouliers, mais on appelle ça des tabacs. Hein, c'est-à-dire, c'est des plaques sur lesquelles on déplace des jetons jusque pratiquement au XVIIe siècle. Donc, calculer à la plume, cela ne va pas de soi. D'ailleurs, cela implique, dans les chancelleries, on utilise pour calculer l'écriture de finance, c'est-à-dire l'écriture romaine. Vous savez qu'avec des chiffres romains, on ne peut pas calculer. On ne peut pas les poser, on ne peut pas poser une addition avec des chiffres romains, on ne peut pas poser une multiplication avec des chiffres romains, c'est impossible. Tous les calculs sont faits en chiffres romains. Pourquoi ? Parce qu'ils sont calculés par ailleurs sur la base. Eh bien, chez les petits marchands, on écrit comme les Arabes. On utilise le système arabe de numération. On utilise en particulier la numération de position. On sait poser des opérations. On utilise le zéro, qui ne s'utilise pas dans la numération romaine. On calcule, comme on dit tout à l'heure, à plus. Alors, on sait calculer. On sait tenir une comptabilité. Et dès le XVe siècle, y compris chez notre charcutière, on voit apparaître la comptabilité en partie double. C'est quelque chose de relativement important, puisque cela permet d'avoir l'état d'une situation financière d'un point de vue et d'un autre. Hein? Du point de vue du créditeur et du point de vue du débiteur. Cette comptabilité en partie double est aussi une invention très importante de ce livre. Autre invention, et beaucoup plus importante que cela, c'est qu'on voit que ces marchands qui ont appris à calculer, qui ont appris à faire des chèques, qui ont appris à envoyer des factures, qui ont appris à s'informer les uns les autres, tiens, il y a une bonne affaire à faire ici, eh bien, ils se soucient aussi de se faire copier les livres pour leur nation ou pour le salut de l'Europe. C'est quand même assez extraordinaire. Et, toujours mon collègue Petrucci a pu prouver au XVe siècle en Italie, qui serait un peu l'équivalent des manuscrits des grands monastères, c'est-à-dire des compilations faites aussi par des mains différentes chaque fois que quelqu'un passe, parce qu'on ne peut pas se payer un copiste, imaginez bien. Hein. Des compilations des textes essentiels. Alors, ce sont des textes très variés, qui sont en général copiés sur le même cahier, qui sont serrés dans le coffre familial, et que l'on ressort exceptionnellement, c'est-à-dire chaque fois que passe un voyageur. Donc, vous voyez, le rôle de la copie est tout à fait essentiel. On copie quand passe quelqu'un qui sait écrire, on lit quand passe quelqu'un. Et l'écrit appris dans ces milieux qui sont encore à notre travail, et en Italie, ils resteront longtemps, l'écrit a pris une place aussi importante que dans les milieux. Alors, bien entendu, cette demande d'écriture va générer, dans l'Europe du Sud au départ, et progressivement dans toute l'Europe, une demande d'apprentissage. Comment ces marchands, ces charcutiers, ces tailleurs, on a trouvé aussi des tisserands, vont-ils apprendre ? Eh bien, progressivement, un certain nombre d'entre eux vont se spécialiser, vont se professionnaliser et vont vendre leurs services. Et on voit apparaître, à la fin du XVe siècle, en Italie, des maîtres d'écriture ambulants. Ils ont en général une petite carriole, comme ça, qu'ils traînent après eux, ou simplement ce qu'on appelle une balle, une caisse de bois qu'ils posent devant eux. Ils ont une plume sur le chapeau, qui signale leur appartenance à cette noble corporation des écrivains. Ils circulent dans les villes, et ils proposent à qui le veut d'apprendre à écrire. Alors ils peuvent rester dans un village, dans une ville, pendant un mois, deux mois, trois mois, un an. Et là, ils prennent des élèves. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, effectivement, ils n'ont pas du tout l'écriture que l'on utilise dans les chancelleries. Ils utilisent des écritures que les Italiens appellent mercantiles, marchandes, qui sont très caractéristiques de ces semi-lettrés, qui ont appris à écrire un peu comme ça. Mais c'est une écriture qui est très diffusée, et que donc, très progressivement, chacun commence à pouvoir. D'abord ambulant, ils restent certainement assez longtemps ambulants à l'Italie. Ils vont progressivement se développer un peu plus. Et puis, ce qui sait, que vont-ils devenir ? Assez curieusement, dans la plupart des pays européens, le phénomène se produit à peu près partout. Ils auront des devenirs très différents. Et je voudrais simplement évoquer très rapidement leur devenir en Italie pour passer ensuite à leur devenir en France. En Italie, que vont-ils devenir ? Eh bien, peut-être parce que, passé le XVIe siècle, ce qui se développe en Italie, c'est une culture que plusieurs historiens italiens ont appelée une culture de l'écrit confisqué, c'est-à-dire une culture de l'écrit qui appartient seulement à des milieux très préservés, et qui ne se diffuse pas, comme elle se diffusera dans les pays marqués par les réformes protestantes, à des milieux plus populaires. Ce mouvement de diffusion marchand va en quelque sorte s'arrêter. Il s'arrêtera aux villes, il ne continuera pas au-delà vers les campagnes. Et progressivement, ces maîtres d'écriture du XVe siècle en Milan, à la fin du XVIe siècle, vont peiner à trouver de l'emploi à l'Italie. Un certain nombre d'entre eux vont trouver une échappée. Ils vont se transformer, et c'est très important pour être à propos, d'écrivains, comment dirais-je, fonctionnels, proposant des écritures ici, en écrivains d'apparat, proposant des faits. Et on voit apparaître en Italie, chez ces maîtres de dessin, un certain nombre d'entre eux, les plus habiles d'entre eux, on voit apparaître chez eux non plus cette écriture utile pour l'activité d'écriture de tous les jours, mais une superbe écriture, une grande écriture d'apparat, qui va très vite se marquer dans l'esprit baroque, et que les plus subtils et les plus habiles d'entre eux vont proposer au pouvoir pour, en quelque sorte, que le pouvoir utilise l'écriture comme il a appris par ailleurs à utiliser la peinture, c'est-à-dire pour exposer sa puissance. Ce sont ces écritures qu'on pourrait appeler épigraphiques, hein, c'est-à-dire des écritures qui sont sur, non plus sur des pages, hein, des chartes ou des livres, mais qui sont sur les monuments, qui vont en quelque sorte accueillir les derniers feux de l'écriture des maîtres de l'Église. Phénomène assez curieux qui a été très bien illustré, encore une fois, par mon collègue Petrucci, dans un livre que vous pourriez lire, puisqu'il a été traduit en français, qui s'appelle « Jeux d'écriture ». Il a été publié par la Maison des sciences de l'homme. Que deviennent-ils en France? Bon, en France, ils arrivent d'abord quand? Bien au même moment, à partir du XVe siècle. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Quelles sont les traces qui nous permettent aujourd'hui de les citer? Eh bien, on les reconnaît essentiellement par leurs ancêtres. Parce que ces gens-là écrivent, et c'est la preuve qu'en France, ils doivent être plutôt fixés qu'en Italie, hein, c'est-à-dire plutôt sédentaires, et installés dans des boutiques, dans les grandes villes commerciales. Ils ont tous une grande feuille de parchemin qu'ils affichent à la devanture de leur boutique et qu'ils vendent à leur maison. Or, chance, on a retrouvé dans l'Europe, une cinquantaine de ces affiches, qui pour la plupart datent de la mi-15e siècle et vont jusqu'au début du siècle. Elles sont toutes à peu près les mêmes. La plus célèbre d'entre elles, c'est pas la moindre, je pensais à Holbein le Jeune. Holbein le Jeune a peint une affiche de notre écrivain pour un de ses amis, d'être écrivain, donc à Bâle. L'affiche qu'on appelle de Myconius, qui est une superbe affiche de maître écrivain qui comporte superbes exemples d'écriture et une petite scène, hein, qui montre effectivement le maître écrivain au travail. Vous pourriez la repérer si vous avez cet album publié par Flammarion qui s'appelle Tout le matin de Myconius. Donc, il n'est plus dans cette connaissance. Nicolas Flamel en a fait une étude. En montre-lui. Donc ces affiches, où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve, comme beaucoup de choses pour ces périodes anciennes, assez souvent dans les rembourrages des reliures des livres anciens. Elles ont servi, pliées à épaissir, hein, la reliure entre le plat et la peau. Et aujourd'hui, eh bien, lorsque nos conservateurs à la Bibliothèque nationale ou ailleurs vérifient les reliures, en général, ils les démontent pour les soigner, les désinfecter, etc. Et ils trouvent ces objets dans lesquels on fait toujours des découvertes merveilleuses. Une des dernières a été découverte il n'y a pas très longtemps par François Gaspari à la Bibliothèque nationale, une dizaine d'années à peu près, quand il était le dernier en expert. C'est l'affiche d'un maître écrivain parisien, semble-t-il parisien, pas tout à fait sûr, mais pourrait bien être parisien, qui vante ses mérites, donne toutes les qualités de son art, dans des petits quatrains, dans lesquels il explique que qui veut venir ici apprendra belle chose, etc., montre tout ce qu'il sait faire à l'écriture, et y ajoute bien sûr, parce que c'est dans la tradition que maître écrivain, qu'il sait aussi enseigner la rhétorique. Et montre comment résoudre les problèmes. Ces affiches, on en trouve où? Bien, je vous ai dit à Paris, bien sûr, en France, à Lyon, à Toulouse, à Nantes, maintenant, voilà les quatre principales villes françaises où on trouve des affiches de métropolitain pour les campus. Donc vous voyez, il y en a. Il y en a et certainement beaucoup plus parce que vous imaginez par quel hasard de conservation on est arrivé à trouver ces quatre-là. Bien d'autres ont dû être évités et ont disparu dans les vicissitudes du temps. On en trouve aussi en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, et ce sont toujours de très très bons choix. Donc, nos maîtres écrivains français s'installent dès le 15e siècle dans toutes les villes marchandes. À partir du 16e siècle, on peut les fister un peu partout dans toutes les villes marchandes parce qu'ils commencent à avoir des procès. Vous savez, pour les historiens, le procès du travail, c'est toujours une source de documents formidables. Alors, ils ont des procès parce qu'ils n'ont pas payé leurs taxes, ils ont des procès avec les gens à qui ils louent le local dans lequel ils travaillent. Très vite aussi, ils vont avoir des procès avec leurs concurrents, parce que je vais vous expliquer très bientôt qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir enseigner les cultures. Bref, par chance, ils ont des procès, et nous les reposons. Pour ma part, j'ai pu travailler sur deux dépôts d'archives qui ont d'abondantes pièces concernant ces maîtres écrivains français du XVIe siècle, c'est Dijon, où il y a un groupe important de maîtres écrivains qui travaillent dès le XVIe siècle, qui ont une place très importante dans la ville, et qui semble être un groupe assez turbulent, qui fait beaucoup de livres. La deuxième place sur laquelle j'ai travaillé, c'est Marseille. Région vieille capitale, ville marchande importante encore, et Marseille port important sur la Méditerranée. Il y en a qui ont été étudiés par d'autres collègues à Rouen, il y en a qui ont été étudiés à Bordeaux, et il y en a qui n'ont jamais été étudiés, y compris dans de petites villes. Le dernier que j'ai trouvé, c'est par exemple à Trégastel. Il semble y avoir eu, il faudrait que j'aille, trouve le temps d'aller y travailler, un groupe de maîtres écrivains importants de Enfin, ce qui caractérise ces maîtres écrivains français, c'est qu'ils ont une stratégie. À partir du XVIe siècle, et une stratégie dans laquelle ils vont effectivement parfaitement s'inscrire. Ils ont le choix, en quelque sorte, entre deux possibilités, on va dire. Soit ils se mettent plutôt du côté de la corporation des peintres et ils se calquent un peu sur le mode de vie de ces gens-là, soit ils se mettent plutôt du côté des gens qui travaillent sur la scolarisation. C'est pas un choix inimportant parce que s'ils visent plutôt la stratégie des peintres, ils vont se constituer en corporation. Et s'ils se constituent en corporation, ils vont immédiatement éviter des règles de protection du métier qui vont effectivement leur donner un certain nombre de monuments. Si au contraire ils visent plutôt le côté maître d'école, c'est-à-dire diffusion de leur savoir-faire à des couches plus larges, hein, plus le côté artisan, mais plutôt le côté maître d'école, on essaie de diffuser plus largement, alors là ils savent que l'Église leur interdira toujours de se faire. Donc ils sont un peu à une croisée de chemin. Ou bien ils se développent beaucoup, ils ouvrent en droit leur art à tout le monde, et ils deviennent le maître d'école, mais ils risquent encore de s'appauvrir. Ou bien ils sont du côté plutôt de ceux qui gagnent mieux leur vie et ils se constituent. Très longtemps, les pouvoirs, aussi bien les pouvoirs municipaux que le pouvoir parisien, c'est-à-dire le pouvoir royal et le Parlement à Paris, vont leur interdire de se constituer encore. Et on comprend très bien. Les pauvres malheureux que j'ai étudiés à Marseille, eux, n'ont pas eu chance, ne l'aura jamais perdu de se constituer en corporation. Et j'ai trouvé une superbe lettre à la dernière supplique qu'ils envoient quelques années avant la Révolution. Et ils envoient une dernière supplique aux échevins de Marseille pour demander à ce qu'on les autorise à se constituer en corporation. Et la réponse revient cinglante, c'est non. Et on leur explique très bien pourquoi. Parce que si vous vous constituez en corporation, vous feriez diminuer le nombre de maîtres écrivains qui sont disponibles sur Marseille. Vous feriez monter les prix. Et ce serait néfaste pour notre commerce. Parce que ces maîtres écrivains, à partir du XVIe siècle, jouent un rôle très important dans ces villes marchandes. Ils sont des comptables, ils sont des secrétaires, ils sont aussi employés dans les services publics, ils apprennent à ceux qui veulent bien apprendre leur art. Vous voyez, ils ont des fonctions très multiples. À Paris, ils vont y arriver. Mais ils vont y arriver à un moment tout à fait particulier. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, dans le bazar invraisemblable qui est devenu la cour royale et l'administration royale. Un des secrétaires du roi imite frauduleusement la signature. Le secrétaire dit non, c'est le roi qui l'a signé. Le roi ne signe jamais personnellement, mais donne ordre de signer. Non, c'est une signature authentique, mais ce n'est pas. Et Michel de l'Hôpital, qui est à l'époque responsable de la chancellerie, veut coincer ce secrétaire de l'État et rassemble autour de lui 5 maîtres écrivains parisiens à qui il va demander de faire une expertise. Alors, ces maîtres écrivains, il les choisit où ? C'est très intéressant. Il en choisit 2 qui sont maîtres écrivains à l'université. Attention, ce n'est pas l'écriture de l'enfant, c'est l'écriture complexe qui permet à ces étudiants de venir de l'anglais, 2 maîtres écrivains de l'université, 2 qui tiennent boutique à Paris et qui ont des classes d'écriture renommées. Ils ont monté leur classe et qu'ils enseignent effectivement. Et 1/5 qui est un secrétaire de la chancellerie. Ces 5 personnes sont rassemblées, étudient la signature constituée, concluent au faux. La suite est immédiate à ce moment-là. Le brave secrétaire est roué et brûlé. Il a effectivement fait un crime de lèse-majesté. Donc, exit de son père, mais pas les maîtres écrivains. Parce qu'immédiatement, les maîtres écrivains font une lettre et demandent au roi, en récompense de leur bon service, de les autoriser à se lancer. Et effectivement, le roi autorise la constitution de cette corporation. Le Parlement, qui les emploie, met 10 ans à enregistrer les lettres patentes qui lui ont été données, qui leur ont été données, mais finalement cèdent, parce que faut savoir que les maîtres écrivains se placent bien. Chaque fois qu'il y a une naissance royale, l'un d'entre eux est désigné pour apprendre à écrire aux jeunes prêtres. Donc, vous voyez, ça crée quelques liens, quelques attachements comme ça, et en général, le maître d'écriture de ce qu'on appelle l'éducation, c'est-à-dire des petits groupes de personnes, trentaine en général, qui s'occupe de l'éducation d'un prince à la cour, a quand même ses entrées auprès des grands du royaume. Donc, on permet à ces maîtres écrivains de se constituer en corporation, et effectivement, ils se constituent en corporation et définissent à partir de là leur spécificité. Alors, leur spécificité apparaît, c'est-à-dire ce sur quoi ils ont monopole. Cela va être, bien sûr, l'expertise des écrivains. Qui viennent de réussir un coup fabuleux et sont récompensés. Cela va être l'arrivée. On n'ira pas jusqu'à leur donner la comptabilité, parce que ça gênerait beaucoup trop. La science de la comptabilité est l'arrivée. Troisièmement, on va leur donner l'autorisation d'enseigner leur art à leur propre élève. Et dans un premier temps, pour le Parlement, il ne s'agit pas d'ouvrir des classes d'écriture, d'avoir le monopole des classes d'écriture, parce que vous voyez, ils enlèveraient immédiatement le pain à tous les élèves d'école. Ils avaient le monopole de l'ouverture des classes d'écriture. Ils vont avoir le monopole de la formation des écrivains. Pour devenir écrivain, il aura fallu d'abord apprendre à écrire chez eux. Et à partir de là, la corporation va s'installer et essayer de tenir le rapport. Pendant le XVIe siècle et pendant le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, elle va essayer de vivre en quelque sorte de cette Europe de l'Occident. Mais ce sera toujours avec difficulté, parce qu'au fur et à mesure que l'écriture se diffuse dans le corps social, au fur et à mesure que l'alphabétisation se répand, cette écriture très difficile, très lente, très laborieuse, très longue à apprendre, bien sûr, n'a pas les mêmes faveurs que l'écriture cursive que chacun peut aller apprendre en restant quelques années de plus à l'école, et peut-être dans une école pour beaucoup moins cher que chez le maître écrivain, et qui de toute façon est bien plus. Donc, vous le voyez, ce qui est peut-être le plus amusant de toute cette affaire-là, c'est que toutes ces belles choses que vous avez demandées vont être en fait le fruit de la décadence. C'est parce que ces maîtres écrivains ne vont pas arriver à subsister dans leur fonctionnalité première, qu'ils vont progressivement inventer un art qui sera un art au même titre que la peinture des tableaux, c'est-à-dire un art collectionné par les collectionneurs qui l'achèteront et qui sera l'art des planches des statues. Deux temps, simplement, pour constituer cette capacité à créer de l'art cartographique. Le premier temps, c'est quand même un coup qu'ils vont essayer de réussir, parce qu'ils sont toujours très malins, ils ont été toujours exceptionnels, et qu'ils vont essayer de réussir à la fin du règne de Louis XIII. Cette fois-ci, il n'y a plus de secrétaire à faire pendre, il faut trouver autre chose. Et ce qu'ils vont trouver à la fin du règne de Louis XIII, ils vont aller faire le siège du Parlement d'une part, et de la chancellerie royale d'autre part, pour expliquer que dans ce superbe roi, si bien organisé, si bien mis, il y a quand même quelque chose qui va très mal, c'est le plus. Parce qu'il n'y a plus, disent-ils, d'unité d'écriture dans le royaume. Chacun écrit n'importe comment, et ils viennent dire au roi, « Sire, il faut que vous ordonniez à vos maîtres écrivains de vous faire l'écriture officielle du royaume et que vous édictiez que chacun dans le royaume devra écrire selon sa écriture. » C'est fabuleux, hein, parce que vous voyez que vous court-circuitez par là toutes les autres possibilités d'apprendre l'écriture. Ils vont vers le ciel. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'ils vont réussir ce coup-là, c'est-à-dire que le Parlement va jouer la recentration des écritures, la reconfiguration des écritures, et va effectivement ouvrir une espèce de concours, on dirait les écritures, pour obtenir les modèles d'écriture qui seraient utilisés, non pas partout dans le royaume, comme l'exigé les maîtres écrivains, mais dans toutes les chancelleries. Donc pour unifier les écritures. Et ce sont deux maîtres de la corporation, hein, qui ont des noms chacun absolument superbes, puisque le premier s'appelle Barbe d'Or. Les maîtres écrivains ont toujours des noms merveilleux.
C'est pas un surnom ?
Non, Louis Barbe d'Or. Louis Barbe d'Or. Et son compère s'appelle Lebé.
Comme le Rousseau.
Lebé. L-E, plus loin, B-E. Pour les deux écritures officielles du royaume, dont l'une sera la ronde, ou écriture française, et dont l'autre sera la bâtarde ou écriture italienne. Ronde et bâtarde, française et italienne, les deux écritures officielles du royaume. On fait graver les planches sont répandues dans toutes les chancelleries, et deviennent, c'est un beau coup. Voilà la ronde, c'est une écriture qui se caractérise par le fait que son axe est perpendiculaire à la ligne, et qu'elle est faite essentiellement de barres et de cercles. D'ailleurs, Barbe d'Or, quand il a décrit, dit qu'elle a un style classique. C'est-à-dire, elle est faite des deux belles figures de la géométrie, la ligne et le cercle. Et effectivement, vous voyez que la ronde correspond bien à l'art classique du grand siècle. La deuxième, la bâtarde, vous sentez déjà le caractère péjoratif, l'italienne, la bâtarde, l'écriture venue d'ailleurs, l'italienne. C'est une écriture qui est légèrement penchée et qui, de ce fait, n'est plus faite de barres et de cercles, mais qui est faite de barres et d'ovales, d'ellipses. Ce sont ces deux écritures, effectivement, qui vont devenir les deux écritures officielles du royaume. Vous imaginez qu'après un coup comme ça, les maîtres d'école sont très inquiets, parce qu'ils voient effectivement la corporation grignoter et arriver petit à petit. Les maîtres d'école, c'est-à-dire l'Église. Parce que derrière l'école, il y a celui qui gère tous les maîtres d'école parisiens, ce n'est pas, il n'est pas recurial à l'époque, au rectorat de Paris. Il est tout simplement dans la petite maison qui est là où se trouve aujourd'hui le presbytère de Notre-Dame. C'est le grand chantre de la cathédrale, et c'est traditionnellement le grand chantre de la cathédrale qui gère tous les maîtres d'école parisiens, qui surveille tous les maîtres d'école parisiens, qui les inspecte, qui leur donne l'autorisation d'enseigner, et qui vérifie qu'ils enseignent selon les règlements de l'Église, c'est-à-dire qu'ils catéchisent. C'est laïque, mais créant toujours. Que sont les maîtres écrivains, vous imaginez bien qu'ils ne seraient pas vus d'un bon œil par le prochain de la cathédrale. Donc, les maîtres d'école ont... Et il va y avoir pendant tout le XVIIe siècle toute une série de procès qui progressivement vont enserrer nos maîtres écrivains dans des fonctions qui sont de moins en moins lucratives, parce que ce sont des fonctions officielles, expertise des écritures,
surveillance de la qualité des écritures de chansons, et non plus des fonctions qui rapportent au lieu, c'est-à-dire transmission de leur art, ouverture des écoles. Petit à petit, les écoles, en particulier avec l'effort que va faire Jean-Baptiste de la Salle au XVIIIe siècle, en ouvrant ses frères, ses écoles, les frères de l'école chrétienne, vont occuper tout l'espace de la transmission de Dieu. Que restera-t-il à nos pratiques? Il ne leur restera plus que l'art pour l'art. Et c'est bien ce qui va se passer pendant tout le XVIIIe siècle, où on va voir fleurir en France, mais aussi en Angleterre, mais aussi en Allemagne, le mouvement se généralise à peu près partout à ce moment-là. Vous allez avoir un engouement, un plaisir de la collection des belles planches. Alors que fait le maître écrivain? Eh bien, progressivement, il devient ce graveur qui construit ces alphabets, qui n'ont plus d'autres fonctions, en quelque sorte. Vous voyez ici, en plus, ces traits de plume, c'est-à-dire ces dessins à la plume. L'art de ces traits de plume, c'est de ne jamais lever la plume. Là, ce sont des arabesques, mais un des maîtres écrivains qui parisiens, qui s'appelle Pierre de Rouen, a, au XVIIIe siècle, fait réaliser le portrait du roi et de la reine en utilisant tous les passages de l'écriture qui parlent du pouvoir royal. Alors, on ne voit pas le texte, il est microscopique, mais le portrait est dessiné avec ces lignes d'écriture. Voilà à quoi s'amusent les maîtres écrivains du XVIIIe siècle. Ils glissent complètement de leur fonction fonctionnelle, instrumentale, pour devenir véritablement des peintres en lettres, mais à perdre ainsi leur âme et à s'installer dans l'art pour l'art, ils vont progressivement effectivement disparaître. Le goût de la collection de l'écriture disparaîtra, et nos maîtres écrivains n'auront plus rien pour subsister. Les quelques malheureux qui subsistent après la Révolution devront se contenter de se reconvertir en maîtres d'école. Les maîtres d'école adapteront un petit peu leur art, mais de manière très légère. Et dès le XIXe siècle, la plume d'oie disparaîtra au profit de cette plume métallique qui va permettre aux maîtres de ne plus retailler la plume de ses élèves en permanence, et donc il va permettre la diffusion de l'art d'écrire à tout, la diffusion universelle de l'art d'écrire à tous les enfants, avec la disparition de la plume métallique. C'est effectivement la disparition de l'art académique qui se raconte. Je vous remercie de votre attention. Et si vous le voulez bien, maintenant, je n'ai pas été trop long pour laisser une place à la...
Pourquoi ça s'appelle sergent-major?
Ah, il n'y a pas Sergent Mazur seulement, il y a Baignol et Fargeon, Blanzypour, etc. Il y a toute une série de maisons. Oui.
Je voulais savoir s'il y a eu interférence entre certains qui avaient le titre de maître écrivain et d'autres qui étaient les créateurs de caractères d'imprimerie comme les Garamond, comme les Tito.
Absolument pas. Il y a une étanchéité parfaite entre ces deux cultures. La culture des imprimeurs et la culture des copistes sont des cultures antagonistes. Et ils ne travaillent jamais les uns pour les autres. Les seuls qui ont travaillé des deux côtés à la fois sont en fait des gens qui n'étaient ni d'un côté ni de l'autre. C'est les grands humanistes du XVIe siècle, des gens comme Geoffroy Thory, Durer, qui ont créé des lettres constituées à partir de formes géométriques qui ont été utilisées par les graveurs de Poinçon pour l'imprimerie d'un côté et par les copistes pour l'écriture manuscrite de l'autre.
Le Garamond de sous François Ier n'a jamais été utilisé pour les calligraphes.
Jamais. Cela s'explique très certainement par la naissance de l'imprimerie. On ne l'a pas étudié en France, mais on l'a étudié en Italie. Au moment de la naissance de l'imprimerie, qui sont les gens qui deviennent des imprimeurs en Italie? Bon, vous savez que l'imprimerie arrive de manière un peu tardive par rapport à la France, en Italie, mais à 10 ans près. Qui sont les imprimeurs? On sait aujourd'hui que pour l'Italie, ce ne sont jamais des copistes. Ce sont des gens qui viennent en fait, pour l'essentiel, du commerce. C'est-à-dire ce sont plutôt des entrepreneurs que des techniciens. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont de l'argent pour acheter les machines. Donc, quand on essaie d'étudier le déploiement des premières presses qui s'installent dans l'Europe entre 1450 et 1500, eh bien, on voit bien, effectivement, qu'il y a des trajets, des descentes de techniciens qui viennent de Strasbourg, d'Allemagne, ensuite de Paris, de Lyon, etc., et qui émigrent dans toute l'Europe. En Italie, par exemple, ce sont essentiellement des marchands
et pratiquement jamais des copistes. Il n'y a pas eu cette reconversion, si bien que, vous voyez, les copistes italiens, les maîtres écrivains italiens se sont reconvertis sur l'épigraphie murale, se sont mis à travailler avec les architectes, mais n'ont jamais travaillé avec les graveurs de
bronze. Ils n'ont presque pu faire de l'art funéraire.
Mais ils en ont fait, mais ils n'ont pas travaillé avec les graveurs de Poinçon. Le graveur de Poinçon qui travaille pour l'imprimeur, on sait aujourd'hui qu'ils viennent plutôt de l'orfèvrerie. On sait aujourd'hui que ce sont les spécialistes du travail du métal qui se sont très souvent reconvertis en graveurs de Poinçon et en donc en inventeurs de lettres. Lorsque Aldemanus, par exemple, à Venise, invente ce fameux caractère grec qui va être le grec dans lequel seront écrits les grands livres de la culture humaniste grecque de la Renaissance, c'est lui qui l'invente. Pour le coup, c'est l'imprimeur, au sens de patron de l'imprimerie, qui invente ce caractère. Donc là, vous avez la conjonction dans un atelier d'imprimerie de la création d'un nouveau Poinçon. Je vous signale que vous pouvez visiter à l'imprimerie nationale les trésors merveilleux des Poinçons, en particulier le fameux grec du roi, gravé par Garamond, qui se trouve dans les coffres-forts de l'imprimerie nationale. L'art de la plume est un art qui relève plus du pinceau que du burin. Et d'ailleurs, lorsque les maîtres écrivains vont être obligés d'utiliser l'imprimerie pour diffuser leurs œuvres. Quand ils se mettent à devenir des artistes, ils vont vouloir diffuser leurs œuvres. Mais ils ne choisiront pas la gravure de Poinçon, c'est-à-dire de créer des caractères. Ils choisiront la gravure sur cuivre, des imagiers. Et ce sont des planches, des eaux-fortes, gravées sur cuivre, ou à mon avis d'ailleurs plus des eaux-fortes, des burins directement, c'est-à-dire gravés au burin dans la plaque de cuivre, qui seront utilisés pour diffuser tous ces beaux albums qui sont là en ce moment entre vos mains. Ce sera une alliance entre les imagiers et les écrivains, et non pas entre les imprimeurs de caractères, les typographes et les écrivains.
Il y a la révolution, lorsqu'on a parlé des écoles, ou ensuite, est-ce qu'on a choisi un modèle d'écriture ?
Le modèle d'écriture qui va devenir le modèle utilisé pendant toute la Révolution, c'est un modèle d'écriture qui est inventé sous l'Ancien Régime. Il est inventé à la fin du XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle la coulée. C'est une écriture très lisible, un peu plus penchée que la bâtarde, un peu plus régulière que la bâtarde, et qui, surtout, a cette caractéristique de ne pas nécessiter qu'on lève la main. Elle coule toute seule. Vous savez qu'en écriture, moins on lève la plume, plus on gagne de temps. On a de belles études sur les encres, on a une très belle étude qui a été faite sur les encres médiévales et qui sont des encres dont les recettes seront utilisées encore jusqu'à la Révolution. Chaque maître écrivain a sa recette. D'ailleurs, à la fin de leur petit livret, très souvent ils donnent la recette de leur encre, faite avec la gale de noix en général, mais il faut aussi un acide et le vinaigre souvent qui absorbe les colorants. Ensuite, il faut quelque chose pour le fixer, donc on y met un peu de cendre en général, de la gomme arabique pour le fixer.
Du noir de fumée, comment
on utilise aussi le noir de fumée. Chaque maître écrivain a sa technique particulière. Toute une série de recettes qui souvent sont un peu même magiques et que chaque maître utilise de manière plus ou moins ouverte. Mais pour revenir à la question de la Révolution, donc cette écriture coulée, qui va être l'écriture qu'utilisera tout le monde. Parce qu'il faut bien voir qu'à partir du XVIIIe siècle, à Paris, par exemple, on sait qu'à Paris, tout le monde est alphabétisé au XVIIIe siècle. Et à Paris, cette coulée qui a été inventée au XVIIIe est vraiment l'écriture de tout le monde. Aujourd'hui, cette calligraphie est en train de renaître, d'une certaine manière. Alors, elle renaît de deux manières. Elle renaît d'une part parce que, dans un temps où le travail, le partage du travail nous laisse à beaucoup des temps de loisirs, il y a des amateurs, il y a des ateliers de calligraphie qui se sont ouverts un peu partout. Et il y a donc un renouveau du plaisir de la calligraphie pour la calligraphie. Ce n'est pas rien. Il y a eu un peu ce renouveau de l'imprimerie, ce qu'on appelle le livre d'artiste, dans les années 50-60. Et aujourd'hui, ça tient encore. Vous avez des ateliers, par exemple, de la ville de Paris, rue des Arquebusiers, où il y a des typographes qui proposent effectivement à des amateurs de venir travailler avec du plomb. Il y a aussi à Aix-en-Provence, le centre de Lure. Et là, effectivement, Aix-en-Provence, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que non seulement il y a cette grande tradition de la typographie, mais il y a aussi maintenant à Aix-en-Provence que la calligraphie qui s'est installée. Et les deux vivent en commun. Mais je crois que ce qui est quand même le plus important, c'est de voir que la calligraphie aujourd'hui est devenue un enseignement qui est donné à l'école des arts décoratifs ou dans les grandes écoles de Beaux-Arts. Dans la mesure où tous ces élèves qui vont faire l'école de Beaux-Arts ou l'école des arts décoratifs ont plus de chances de finir dans des ateliers de création graphique que devant un chevalet, la calligraphie redevient à nouveau une discipline de la formation artistique, qui est appliquée tout simplement à la totalité des arts graphiques, c'est-à-dire création d'affiches, création d'objets portant de l'écriture, et c'est un très bon débouché pour l'art calligraphique. Ce sont les Américains qui sont partis les premiers dans cette voie. Tous les livres que je vous donne là sont des livres qui ont été réimprimés, pas pour les historiens, pour les écoles de beaux-arts. Et le petit livre que je vous ai montré, là, qui circule, qui est pour les enfants, montre les instruments actuels. Ce sont des plumes métalliques, mais taillées comme des plumes bois, et qui ont même maintenant des réservoirs. Mais elles ont la taille spécifique des plumes bois, c'est-à-dire elles permettent de retrouver la forme des lettres que laisse la plume bois.
Est-ce que c'est pas la calligraphie chinoise, le goût de la calligraphie chinoise qui a redonné cela ?
Les calligraphies chinoises et arabes, il faudrait les mettre en parallèle, se sont développées du côté de la peinture, c'est-à-dire leur principale influence a été du côté de la peinture, avec la mode orientaliste de la fin du 19e siècle et surtout du début du 20e siècle. Pensez à l'influence de l'orientalisme chez les grands peintres, chez Matisse et chez bien d'autres. Et vous voyez comment, en quelque sorte, de la calligraphie réapparaît dans le tableau peint à partir de la fin du 19e siècle. Il y a effectivement de l'écriture dans le tableau peint. C'est jusqu'à ces fameux collages de Picasso ou de Juan Gray, par exemple. Alors là, je crois qu'il y a eu véritablement, par l'influence de l'orientalisme, qu'il soit l'orientalisme japonais, chinois ou arabe, un retour vers la peinture de la calligraphie. Mais à ma connaissance, cela n'avait pas réveillé une calligraphie. Il a fallu en fait que ce soit les marchands, les graphistes, qui en ouvrant leur boutique, et leur boutique de création graphique, réinventent en quelque sorte, pour un usage marchand, cet art un peu particulier.
Alors, la police des caractères. On pourrait très bien rentrer dans une police de caractères les symboles qui servent à faire de la calligraphie. Est-ce que le métier de calligraphe n'est pas en train d'être...
C'est un problème très intéressant, mais alors là, ça concerne à la fois les graveurs de poinçons et les gens qui s'intéressent à la calligraphie. On est en face d'un problème très très embêtant parce qu'il y a une très belle tradition calligraphique ou d'imprimerie en Europe. Or, en Europe, nous ne maîtrisons pas les softs qui sont maîtrisés par les Américains. Et les Américains ont effectivement inondé notre marché de PAO de leur propre police de caractère et ont éliminé les grandes polices de caractère traditionnelles françaises que vous ne trouvez plus sur votre Macintosh. Vous ne trouvez pas du Garamond sur votre Macintosh. Mais vous ne trouvez pas non plus du Bodoni. Vous trouvez à la place, effectivement, du Time, vous trouvez du New York, vous trouvez, etc. Vous trouvez les grandes polices utilisées internationalement. Mais les techniques aujourd'hui de création de logiciels pourraient nous permettre de créer aussi bien de la calligraphie manuscrite que de la calligraphie. Un bon spécialiste de l'écriture calligraphique serait capable de créer des polices avec des liaisons. Parce que le système des liaisons est intégré à l'apprentissage de l'écriture manuscrite. Il y a une série de règles très précises pour lier chaque lettre avec telle autre lettre. Les maîtres écrivains le détaillent à la perfection. Le trait doit partir de telle ou telle hauteur, selon qu'on lit un A avec un E, un I avec un L, etc.
Créer une nouvelle police de caractère pour quelquefois un siècle de travail.
Exactement, mais en calligraphie. Très très longue gestation, et je parlais de cette fameuse minuscule Caroline, on la voit naître, il faut pratiquement deux siècles pour qu'elle se développe. La création d'un caractère est une chose d'une extrême complexité. Saluons la performance d'un très jeune créateur de caractère sur ordinateur, qui vient de créer le nouveau caractère de Vogue, puisque c'est un des élèves de ce groupe créé à l'Imprimerie nationale qui a inventé pour le monde un nouveau caractère qui, après tout, regardez-le, lisez le monde, est quand même assez agréable à lire, joli, bien formé, plus clair, plus lumineux que le caractère ancien, et qui, ma foi, montre que notre art de l'invention de caractère en France est bon. C'est un caractère à peine décalé, mais il a son style.
Il a une personnalité.